je vais pouvoir conduire mon camion jusqu'à 70 ans. Youpi! Ouais, 70 ans, camion, super! Mais le temps passe. J'ai 65 ans et maintenant je conduis mon fauteuil roulant. C'est dommage, je vais pas pouvoir toucher ma retraite en entier. Et pourtant je faisais du 50 heures par semaine et je touche vraiment pas beaucoup. Mais pour l'instant, youpi! Jusqu'à 70 ans! C'est Anthony de Dijon, le chauffeur en camion.
Bonjour, j'aimerais savoir s'il est vrai que Bernard Thibault allait être nommé secrétaire d'État à la gestion des conflits sociaux dès la fin des négociations avec la SNCF. Merci, au revoir.
Voilà, ben putain, on se sent bien mieux aujourd'hui, là. Moi, je sais pas, je ressens un grand soulagement. Il paraît que la SNCF, la RATP se remettent enfin à bosser, hein. Il était temps, quand même, cette bande de privilégiés égoïstes là, qui veulent pas lâcher leurs petits privilèges. Il était temps qu'ils se remettent à bosser, nom de Dieu. Non, mais plus sérieusement, je dois dire que ces 9 jours, là, apparemment, enfin, depuis la semaine dernière, disons, m'ont bien fatigué, m'ont bien épuisé nerveusement, non pas à cause des problèmes de transport, mais plutôt à cause du climat général de haine, de je ne sais quoi, mélangène, jalousie que les gens ont à l'égard des cheminots, tout ça relayé par les journalistes, même France Inter, ça m'a beaucoup déçu, la différence, pas tellement, quoi. Et voilà, donc, je suis content que ça se termine pour qu'on n'entende plus parler des usagers déprimés, fatigués, et vas-y de que je t'expose mon système D, moi je fais comme ci, moi je fais comme ça tous les jours. Voilà, essayez de voir un peu plus loin qu'au bout de votre nez, là, messieurs les usagers, et réfléchissez à pourquoi les gens se mettent en grève et pourquoi les gens viennent à de telles extrémités, justement, puisque la grève est une extrémité et pas un amusement, comme j'ai pu l'entendre. La bise à tous, bonne continuation, salut.
Bonjour, Eugénie, étudiante en géographie en troisième année de licence. Mais je profite, Daniel Mermet, de votre émission pour enfin pouvoir parler des étudiants, puisque les médias ne parlent pas de notre contestation face à la loi Pécresse. Donc je voudrais juste dire que tous les jeunes ne sont pas des fainéants et des casseurs, et qu'on a des revendications parce qu'on voudrait que la recherche fondamentale ait un avenir, que les lycéens qui arriveront dans un ou deux ans aient un avenir et puissent faire de la philosophie, se demander si Dieu existe, si qu'est-ce que le bonheur. On voudrait aussi que le grec et le latin puissent continuer à être enseignés. Et c'est pour tout ça qu'on manifeste. C'est pas parce qu'on est des fainéants. Donc voilà, je voulais juste préciser ça parce que les médias ont tendance à mal tourner la chose. Voilà, merci. Bon courage à vous.
Oui, bonjour. Je suis tombé par hasard sur votre émission pendant mes congés. Alors voilà, je suis conseiller financier dans une grande banque. Tous les matins, la première chose que je fais, j'allume mon PC et puis je regarde le cours de la bourse à Wall Street en clôture et les comptes débiteurs des clients. Alors c'est facile, hein, ils apparaissent en rouge. Alors après, je contacte les gens pour trouver des solutions. Et autant vous dire que j'ai pas le rôle d'une assistante sociale. Hein. J'ai des comptes à rendre à mes supérieurs et puis aux actionnaires. Alors c'est pas facile de rester insensible à la détresse des gens. Et il y a aussi les comptes en bleu, les créditeurs. Et là, vous n'avez pas idée, mais vraiment pas idée, du montant créditeur de certains comptes. C'est forcément, le conseiller financier a accès à toutes les informations. Et le souci quotidien de ces gens-là, de ces comptes hyper créditeurs, c'est de savoir comment placer leur liquidité, dont ils ne savent que faire, ou alors échapper à l'ISF ou bien à l'impôt. Et il y a des solutions, il y en a beaucoup de solutions. Alors l'ironie du sort, c'est que je gère également les mêmes comptes que les clients qui se saignent pour acheter un bien immobilier et puis celui des vendeurs de biens ou des rentiers. Et là, vous n'avez pas idée, ils ont aussi beaucoup d'imagination pour gérer les hyperliquidités sur le compte. Alors je vois défiler champagne, voyage, bijoux, et puis de l'autre côté, pour les comptes débiteurs, enfin les comptes qui viennent d'acheter le bien, c'est hard discount et puis hard discount. Voilà, ça c'est mon métier et c'est celui qui nourrit ma famille et moi. Voilà, bon courage à tous.
Il existe une maladie qui touche aujourd'hui plus de 30 millions de personnes en France. Une maladie qui peut vous empêcher de parler, de rire, de manger, de travailler, de dormir ou de vous lever le matin. Une maladie qui peut vous empêcher de vivre. Cette maladie, c'est le capitalisme.
Oui, enfin, il ne faut pas exagérer, hein, parce que tout va s'arranger. Tout va s'arranger, Nicolas Sarkozy s'est engagé à diminuer la pauvreté. Formidable, non ? Voilà, voilà une bonne nouvelle, non ? De combien ? De 30% pendant son quinquennat. Aujourd'hui, la France compte 3,7 millions de pauvres, selon la définition la plus restrictive de la pauvreté. Là, vous avez des descriptions de la pauvreté avec des chiffres, des quotas, des seuils, etc. Mais enfin, c'est quand même une très très bonne nouvelle d'apprendre que la pauvreté va réduire, sinon être à terme, eh ben, éradiquée. Et qui va mettre tout cela en œuvre ? Eh bien, c'est Martin Hirsch, vous l'avez entendu, qui lance à Grenoble le Grenelle de l'insertion. Et je crois que c'est mercredi prochain que aura lieu la journée du refus de la misère. Alors ça fait une occasion pour nous de revenir rue Montorgueil à Paris, dans le deuxième arrondissement, qui fut une rue très populaire dans les Halles de Paris, qui conduisait aux Halles de Paris. Et bien aujourd'hui, tout cela a bien changé. Et alors, ce qui est formidable, rue Montorgueil, c'est une rue que je connais assez bien, c'est qu'il n'y a pas de pauvres. Et c'est quand même un mystère sur lequel on s'est penché avec Pascal Pascariello, où sont les pauvres, quoi. Qu'est-ce qu'on en a fait ? On va apporter quelques éléments de réponse. Je voulais remercier aussi cet auditeur, le banquier, là, c'est les constats qu'il fait tous les jours en ouvrant son ordinateur, les comptes bleus et les comptes rouges. C'est assez intéressant, ce constat, si vous voulez nous... Il n'a pas laissé ses coordonnées, mais ça me plairait assez de dialoguer un petit peu avec lui, de bavarder un petit peu avec lui. Voilà, merci à tous pour ces images et ces messages quotidiens que vous laissez dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Encore quelques messages, et puis des nouvelles des riches.
Oui, bonjour Daniel, bonjour aux membres de l'équipe. Voilà, au nom de mon père, ancien cheminot, mort à 58 ans de son deuxième cancer, et au nom de ses deux collègues, Roger et Guy, morts eux aussi après très peu d'années d'une retraite qu'on peut difficilement qualifier de dorée, je voulais dire aux moutons franciliens qu'on entend se lamenter à longueur de journaux télévisés et radio, qu'au lieu d'insulter leur mémoire en les traitant de privilégiés, il ferait mieux de concentrer leur colère sur les vrais privilèges des gens qui les tombent tous les jours. Et en passant, dire qu'une majorité de béni-oui-oui sarkozistes à l'heure actuelle vaut guère mieux qu'une majorité de béni-oui-oui pétainistes il y a 60 ans. Merci, au revoir et bonne journée. C'était Eric, chauffeur routier dans l'Allier.
Bonjour. L'an prochain, 700 000 retraités pauvres paieront la redevance, ce qui fait que l'État pourra récupérer 75 millions d'euros. Quand on sait le coût moyen d'une mutuelle, 240 euros par trimestre que les retraités pauvres payent. Ils n'ont pas fini d'en baver. Marie-Paul de Villejuif.
Ah, bonjour les AMG et toute l'équipe de là-bas. On revient à la charge. 29 mai 2005, au référendum, vous y étiez ? Vous avez voté oui, vous avez voté non ? Vous vous demandez pourquoi un traité qu'on a refusé devant la porte, sur le perron de la démocratie, revient par la fenêtre ? Vous avez entendu Nicolas Sarkozy reconnaître que l'Europe ne peut souffrir que les peuples lui refusent la forme que les gouvernements veulent lui donner ? Ça nous pend au nez, c'est pour mi-décembre. Ça vous paraît à tout le moins regrettable, cette ratification parlementaire ? Alors faites une visite sur le site 29mai.eu, où il est question de porter plainte collectivement auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Mieux qu'une pétition, une action juridique. Je répète, www.29mai.eu. Merci et bonne réflexion à tous, ça urge.
Je recherche toujours la chanson que me chantait ma grand-mère. On m'a dit, Jean-Pierre, faut plus que tu travailles, puisqu'on t'a donné une petite médaille en argent. Mais un jour viendra où tous les Jean-Pierre, à l'asile de nuit, n'iront plus s'asseoir. Quand on a trimé toute sa vie entière, faudrait pas qu'on aille de Monard se voir. Ou alors aussi, demain, oui, demain, nous ferons des lois, vous n'aurez plus faim, vous n'aurez plus froid. Ce n'est pas demain, ni même bientôt, mais c'est aujourd'hui qu'il est faux. Je recherche toujours ces chansons. et je ne me souviens plus que d'une partie des paroles. Ça, c'était des chansons que ma grand-mère chantait.
Moi, je pars du principe, quand on commence à donner à manger aux pigeons, on se ramasse toute la horde. Donc, je l'imite, ça. Je l'imite.
Vous dites, quand on donne à manger aux pigeons, on se ramasse toute la horde?
Vous commencez à donner à manger un pigeon. Au bout de 10 minutes, vous en avez 10, 20, 30. Au bout d'une semaine, vous avez tout un troupeau de pigeons qui est là dans le quartier. Le quartier, enfin, vous comprenez, quoi. Donc là-dessus, je préfère l'imiter aussi.
Faut que le quartier soit propre, quoi.
Puis si demain, ils gagnent au loto, ils seront peut-être bien contents de venir habiter dans le quartier. Comme à Euro Disney, voilà.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis avec Pascal Pascariello, les glaireux et les onctueux.
Flight number 2, arriving from New York.
Donc je suis Monsieur Avey, je travaille pour la société Côté Montorgueil. Nous sommes tout simplement une agence de proximité spécialisée sur le quartier piéton Montorgueil, comme notre nom l'indique. Une agence immobilière, on est spécialisé uniquement dans la vente de biens immobiliers sur le quartier piéton Montorgueil. À l'heure actuelle, il y a un engouement qui est assez important pour le quartier Montorgueil, comme la Reine d'Angleterre est venue, c'est un endroit très showbiz. Maintenant, il fait bon de se faire d'être vu dans la rue Montorgueil ou dans le quartier Montorgueil. Alors, vous êtes tout simplement dans le centre de Paris, vous êtes entre le Sentier, entre Rivoli, les Arts et Métiers et la Bourse. Donc ça vous permet de vous situer, on est vraiment au cœur de Paris. C'est un quartier piéton, donc il n'y a pas de voiture. Vous voyez, tout le monde marche sur la route comme dans... comme à Euro Disney, voilà. Ici, je vous parlais tout à l'heure de showbiz parce que vous avez pas mal de personnes comme Jennifer, comme Laurent Voulzy. C'est un endroit qui est maintenant très, très médiatisé. À l'heure actuelle, le quartier Montorgueil est vraiment ce qu'on peut appeler un village. Tout le monde se connaît, il y a une notion de proximité. Donc, ce que les gens recherchent actuellement, c'est ce côté. Regardez, vous allez voir qu'il y a vraiment une atmosphère Montorgueil.
La santé, l'atmosphère Montorgueil, là c'est bien, hein, c'est joli, les petits pavés, les petits commerçants, les petites boutiques, c'est joli, c'est pimpant, c'est pomponné, c'est magnifique, c'est Paris quoi, c'est on vient de vous le dire, hein, c'est un endroit formidable. Mais là, c'est curieux pour ceux qui ont un tout petit peu de mémoire et un petit peu de bouteille aussi, où sont passés les pauvres? Il y avait, je ne parle pas des très très pauvres, mais du peuple, du populo, il n'y en a plus. Ils ont disparu de ces rues, de cette rue Montorgueil et d'autres rues de Paris, et de Paris d'ailleurs. C'est curieux quand même. Et puis alors, les clodos, les sans-abri, les SDF, il n'y en a plus. C'est quand même une disparition. C'est quand même, ça vaut une enquête. Enquête qu'a faite Pascal Pascariello. En fait, aujourd'hui, on va parler des pauvres. Bien sûr, parce que c'est vrai, le pauvre est un souci, c'est une nuisance parmi d'autres. Il faut le surveiller, il faut le repousser quand il incommode la vue ou l'odorat, quand il compromet l'atmosphère d'une rue commerçante, quand il fait ses besoins à votre porte. Mais il faut surmonter votre dégoût, parce que le pauvre est indispensable et il est saisonnier, on l'a dit. Sans le pauvre, comment sentir le passage des saisons? C'est comme le Beaujolais ou les collections d'hiver. Il y a la mort du pauvre sous son tas de cartons à cause de la froidure et de l'indifférence de la société sans cœur qui est très méchante. Cette scénette est un rituel saisonnier, comme les santons pour la crèche. Ou une bonne purge avant la dinde. Ça, c'est bien la purge avant la dinde. Et alors, chacun fait son indigné, l'œil humide, le consensus vertueux. Et alors, on prend des mesures. Hein. Des mesures de quoi? Oh, des mesures du cercueil. D'ailleurs, je m'adresse à toi, ami pauvre. Toi qui, une bonne âme discrète, vient d'offrir un petit transistor rue Montorgueil, que tu écoutes collé à ton oreille. Et au nom de tous, je te dis merci pour le rôle indispensable que tu tiens depuis toujours. Sans toi, la vie n'aurait
plus de sel et plus de sens. Supprimer la pauvreté, c'est comme supprimer la mort. Et quel goût aurait mon caviar si toi, le pauvre, tu pouvais en bouffer.
Et comme entrée, je te propose une rue qui grouille et un mendiant qui pose, de la pluie qui mouille et un chapeau par terre, à côté d'un restaurant où ça sent la mer. Et je t'emmène en balade, là où sous la lune on voit le jour, loin des feux rouges où la main demande, demande, mais quel est le menu du jour? Mais quel est, mais quel est, mais quel est, mais quel est le menu du jour? Laï, 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 mais quel est, mais quel est, mais quel est le menu du jour? Et pourquoi on tend la main, main tendue pour le menu du jour? Main venue de loin, main qui se souvient, main qui tremble pour un litre de vin. Mais la main reste en l'air et le pied, le pied lui reste dans sa chaussure. Ça n'est pas une question de température, ici on ne gaspille pas que de la nourriture. Et je t'emmène en balade, là où sous la lune on voit le jour, loin des feux rouges où la main demande, demande, mais quel est le menu du jour? Mais quel est, mais quel est, mais quel est, mais quel est le menu du jour? Laï, 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 mais quel est, mais quel est, mais quel est le menu du jour? Qu'as-tu choisi pour le dessert? Une crème chantilly ou un morceau de pierre? Un bébé rose, une banane à la bière, deux boules de citron au marc, une oreille sur ton ventre, j'entends la mer. Depuis combien d'années, d'années-lumière, des belles vitrines à la banque alimentaire, des bancs de l'école à la
soupe populaire.
Mais quel est, mais quel est, mais quel est le menu du jour? Mais quel est, mais quel est, mais quel est le menu du jour?
Comme vous voyez marqué devant nous sur le sol, c'est 1991. Cette date en fait signifie tout simplement la date de création du quartier piéton. À partir de ce moment-là, en fait, on a vu autre chose que le sentier, parce qu'ici, il faut voir que ce n'était que le sentier. C'était prostitution, drogue, textile. Donc depuis que c'est devenu piéton, c'est devenu un endroit un petit peu protégé, hein. Donc à partir du moment où il y fait bon vivre, les gens qui ont de l'argent viennent y résider. Donc à partir de ce moment-là, l'argent s'injecte tout naturellement, par les charges, par le prix des appartements qui augmente. On est sur une base de 7000 euros du mètre carré, ce qui n'est pas rien non plus. Et je vous donne bien évidemment une moyenne.
À la location,
vous fonctionnez sur une fourchette de 30 euros du mètre carré. 30 mètres carrés, voilà, ça vous fait 900 euros. Je voulais vous emmener dans un hôtel particulier du 17e siècle qui est absolument magnifique. C'est un hôtel particulier, vous voulez faire un petit tour? Je vous y amène parce que c'est un hôtel particulier que j'affectionne particulièrement. Voilà. Voilà ce que cache le quartier Montorgueil derrière de petites portes. Et c'est pas le seul. Mais bon, vous voulez un exemple, c'est assez représentatif du quartier. C'est un hôtel particulier du début du 17e siècle en pierre de taille. Bien évidemment, s'il est classé par les bâtiments de France, c'est qu'il y a de l'historique, vous avez la cage d'escalier qui est également classée. C'est déjà vendu, tout est vendu dans le quartier, vous n'avez rien qui est vacant. On a un appartement à vendre dans cet immeuble, mais on a déjà trouvé l'acquéreur. Donc c'est un appartement spécial, c'était 200 mètres carrés, on dépassait le million d'euros.
Et quand on arrive rue Montorgueil, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de personnes dans la rue.
C'est un quartier où il y a de l'argent, tout simplement. C'est dommage, mais bon. Et plus les riches sont riches, plus les pauvres sont pauvres. Je vois pas beaucoup de pauvres, parce qu'on sait qu'ici vous allez trouver peut-être plus d'argent, plus de. Les Halles, c'est le rassemblement de 4 lignes de RER et de 4 ou 5 lignes de métro. On trouve une certaine faune. Voilà, donc si vous allez faire un tour du côté des Halles, on va parler de. Là, on peut parler de côté populaire.
Mais il n'y a pas de SDF qui stationne rue Montorgueil.
Si, 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 on a même nos SDF que tout le monde connaît et qu'ils ont connus dans le quartier, qui sont des figures emblématiques.
Ah oui.
Ce sont des figures emblématiques. Vous aviez Jean-Marie, qui nous a quittés il y a peu, qui était une figure emblématique du quartier. Mais c'est cette notion de pauvre que je vais relever, parce que c'est pas forcément... c'est des farfelus, c'est des gens qu'on va peut-être prendre pour des pauvres, mais qui le sont pas. Donc c'est peut-être pas quelque chose qu'il faut caractériser, c'est pas un trait, c'est pas quelque chose qui va caractériser ces personnes-là. Mais le côté de SDF, ça c'est un point... c'est pas... Il n'y a pas une équipe de vigile à l'entrée qui ne fait pas entrer les mendiants dans la rue. C'est un quartier où peut-être tout le monde a envie de passer, hein, les riches comme les pauvres, comme tout le monde. Donc. Puis si demain ils gagnent au loto, ils seront peut-être bien contents de venir habiter dans le quartier.
Qu'est-ce que tu dis ?
Ça fait 63 ans que j'habite le quartier. Et puis j'ai vécu toutes les transformations, le départ du marché. La rue Montorgueil, qui il y a 30 ans était la rue la commerçante la moins chère de Paris, c'est devenu quasiment la plus chère.
D'autant plus que vous avez bien connu les Halles.
Ah ben, ça,
et le marché.
Complètement. Mon père travaillait au poisson, il était vendeur sous les pavillons. J'étais vraiment plongé dedans, quoi. Au fur et à mesure, la pression immobilière a pris une ampleur qu'on connaît bien maintenant. Hein. Donc tous les anciens habitants sont soit morts, soit sont partis parce que ils ne pouvaient plus se loger sur place. Quoi. Ce qui fait que le quartier, qui était un quartier vraiment très, très populaire, mais dans le sens noble du terme... avec une mixité sociale... qui était très nette, et où tout le monde se côtoyait et fraternisait sans problème, hein, au bistrot d'en bas. Maintenant, ça s'est uniformisé, quoi. C'est des classes moyennes, plutôt 4 supérieures, d'ailleurs, plus que la moyenne, qui habitent là, en grande partie. On en est là maintenant, quoi. Mais enfin, il aura fallu 40 ans, quand même.
Eh ouais, comme dit Jean-Jacques, on en est à maintenant. Voilà, la rue Montorgueil, ancienne rue populaire, est devenue l'archétype, la caricature du quartier bobo. Et moi, dans mon enfance, il m'arrivait de me balader rue Montorgueil avec ma maman. Et ma maman, quand on voyait un clochard, on disait clochard, on disait pas SDF, elle dit, faut que tu fasses attention parce que c'est peut-être Jésus-Christ. Je dis, comment ça ? Oui, c'est peut-être Jésus-Christ, parce que des fois, Jésus, il s'habille en pauvre. Et c'est pour ça qu'il faut donner aux pauvres, parce que des fois, ça peut être Jésus-Christ. Voilà. Je dis, alors, mais qu'est-ce que, si on ne donne pas à Jésus-Christ, qu'est-ce qui peut arriver ? Ma mère disait, tu peux avoir plein d'emmerdements si tu ne donnes pas, si jamais c'était Jésus-Christ. Et ma mère, elle s'y connaissait en emmerdement. Elle était tombée dedans étant petite, et puis ça ne l'a jamais lâchée à peu près de toute sa vie. Et elle disait une chose, je ne sais pas si c'est son histoire de Jésus-Christ qui lui avait permis de comprendre une chose très très importante. Elle disait, eux, ils veulent supprimer les pauvres, mais moi, ce que je veux, c'est supprimer la pauvreté. Ma mère avait lu Victor Hugo, et ça, c'est Victor Hugo. Mais je pense qu'elle n'avait pas besoin de Victor Hugo pour avoir trouvé ça. Aujourd'hui, on régresse. On régresse, c'est le grand bond en arrière qu'on est tous en train d'accomplir joyeusement. Donc on est revenu au temps de la charité, on est revenu au temps de la bienfaisance, on est revenu au temps des bonnes œuvres. Et dans une rue très bobo, le bobo c'est un mot un petit peu d'aujourd'hui pour dire bourgeois, voilà, bourgeois, c'est une rue bourgeoise. On est revenu aux bonnes œuvres. Et Jean-Jacques a bien raison de regretter ça on peut regretter ce temps effectivement des Halles et l'un des hauts lieux de la rue Montorgueil, dans lequel j'allais quand j'étais gamin avec ma maman, parfois, quelquefois, le dimanche, acheter un puits d'amour, c'est le pâtissier Storer.
200, merci. Vous allez rentrer dans 5 minutes ? C'est gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Au revoir, merci.
C'est une pâtisserie traiteur. En fait, on fait plein de spécialités. Pour Noël, on fait des menus tradition, vraiment la dinde farcie, au marron, crème.
Et alors, si je veux avoir mon petit menu, moi, pour Noël, pour
le menu tradition, il est à 49 euros. Le menu divin, il est à 59 euros.
Ça veut tout dire, divin, c'est quoi c'est,
Bah, c'est mieux, c'est encore mieux que. Enfin, le premier, il est bien, mais le deuxième, il est plus garni. Vous avez la verrine, c'est une verrine avec un pot-au-feu de foie gras, de canard et légumes d'hiver. Hein, ça c'est extra.
Verrine, c'est quoi une verrine?
Une verrine, c'est un verre transparent en fait. C'est un verre transparent, on voit à l'intérieur les couches de garniture. Ça c'est vraiment. De toute façon, chez Storer, hein, on peut trouver que de l'art. Hein, parce qu'un vrai pâtissier, il a fait l'école des beaux-arts. Hein, c'est pas un pâtissier de chez Ginette. Hein. Les gens, ils viennent ici, ça, ils savent qu'ils vont payer tant, mais le luxe, c'est sûr que ça se paye dans une boutique. Hein. Pour 200 euros, je pense qu'ils ont un très bon, même pour 150 euros, un bon menu avec ce qu'il faut, avec des fruits secs à côté, avec des choses. Hein.
Est-ce que vous avez beaucoup de pertes ou pas?
Oui, bien sûr qu'on a de la perte, mais pas tout le temps, hein, c'est très rare. Et puis, si on a de la perte, on a l'église Saint-Eustache, tout l'hiver, on leur fournit, ils viennent le chercher le soir, et on leur donne, voilà.
Donc, individuellement, c'est pas la peine que j'appelle mes amis pour leur dire
non,
venez.
On le fera jamais.
Pourquoi?
Parce que après, les gens viendront que pour ça, et c'est pas. On préfère donner à l'église, s'ils en veulent, ils ont qu'à aller à l'église Saint-Eustache.
Vous avez un petit sourire parce que vous imaginez une queue de.
Oui, je suis en train d'imaginer ça. Hein.
Ça ferait quoi pour vous?
Si on a un clochard qui arrive, qui, c'est vrai qu'il meurt de faim, on va lui donner un sandwich. On n'est pas. On est humain. Donc, non. Des fois, on leur donne, ils ne veulent pas. Ils veulent de l'argent, des choses comme ça. Donc, non, il y a de l'abus, je trouve. Hein. Enfin, non, on ne fait pas. On ne fait pas tout ça, non. On ne le fera pas d'ailleurs. Pas dans la boutique. On a une image de la maison. Non, non.
Admettons Storer, quand même, qui est vraiment réputé. Si ça passe, comme quoi il donne des trucs pour la soupe Saint-Eustache, vous vous rendez compte, il y a des clients qui peuvent mal le prendre, on ne sait jamais. On ne sait jamais, moi je me dis c'est ça. Hein. Eh bien oui.
Mais pourquoi il le prendrait mal, au contraire?
Ben, parce que c'est associer cette image de marque à une classe sociale dévalorisante, franchement. Comment vous le voyez, vous? Ils savent que c'est assuré par ailleurs, bien organisé, tranquille.
Mais.
Question d'image, d'association. C'est mon premier hiver.
William, alors expliquez-moi. Là, vous avez mangé quoi?
La soupe. Et puis après, les légumes avec le poisson. Et on attend pour le café après.
Et donc tout se passe dehors. Je dis ça d'une voix un peu tremblante parce qu'il fait froid quand même.
Ah oui. Il y a des lieux où on peut manger à l'intérieur. Ben ici, je sais pas, ils n'ont pas la place pour. Tandis que dans le cinquième, il y a une. On appelle ça la soupe populaire. Et ils donnent des tickets. Ils appellent par numéro. C'est-à-dire de midi moins le quart jusqu'à 2h. Et là, tu as le droit de manger à l'intérieur assis. Bon, t'es au chaud, t'as une soupe, un plat. Et après, t'as l'église Notre-Dame de la Trinité là-bas. Là, c'est pareil, t'as une soupe. Un plat et puis un café, puis des gâteaux et tout. Et t'as le droit de manger à l'intérieur.
Et pourtant, parce que là, au plus, ils ont une église.
Ah bah ici, Saint-Eustache, c'est une vieille église. Hein.
Elle est grande, hein?
Ah oui, elle est grande. Ils pourraient faire à l'intérieur, mais je sais pas, ils peuvent pas. À moins que.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de temps en temps, William, le regard qu'on porte sur vous?
Bah moi, moi, je critique pas les gens, mais il y a des gens, bon, des fois, ils me disent « Ah, ouais, monsieur, mais... » Bah écoutez, hein, quand vous aurez vécu ce que j'ai vécu, moi, je suis né pendant la guerre. la dernière guerre. Je suis né en 1940, tu vois. Vous voyez, c'était en plein mois de décembre 40 et mes parents travaillaient.
Ils faisaient quoi?
Mon père était infirmier brancardier et ma mère travaillait dans les hôpitaux de Paris en cuisine. On était plusieurs dans la famille. Hein. J'ai eu plusieurs frères. Tous les frères ont été militaires et tout. Moi, je suis sorti de l'armée, j'avais 26, 27 ans quand je suis sorti de l'armée. Tout de suite après l'armée, j'ai trouvé du travail au HAL. Il y a un gars qui me dit, tiens, il me dit, il y a les bouchers qui cherchent quelqu'un, du personnel. Bah, je dis, bah, attends, je vais y aller, moi. Ça m'intéresse. Et puis, bon, bah, j'ai travaillé pendant des années là au HAL. Quand je faisais les HAL, j'allais voir mes parents, d'accord, mais je couchais à l'hôtel.
Où ? Il était où ?
Ici, dans le quartier. Vers Montorgueil, il y avait un petit hôtel que le patron payait tous les mois aux ouvriers, au personnel. Et on commençait le soir à partir de 9h. Parce qu'il y avait la découpe, il y avait tout ça à faire. Faire les transportations pour les clients.
Et la rue Montorgueil, elle était comment à votre époque ?
Ben, c'était animé. Hein. C'était animé toute la nuit. La rue Montorgueil, c'était animé toute la nuit. Hein. Et après, quand j'ai quitté les Halles, j'ai fait la cuisine.
Vous avez fait la cuisine ?
Oui, au Café de la Paix. Mais là, j'étais pas apprenti, hein, j'étais cuisinier. Et après, quand les nouveaux patrons sont arrivés, ils ont licencié les anciens. Après, j'ai perdu tout mon logement et tout. Quoi.
C'était en quelle année ?
Ben, c'était en 78-80. J'ai couché sous les ponts de Paris, alors. Faut se débrouiller.
C'est la débrouille.
La débrouille.
Ce soir, par exemple, vous savez où vous habitez ?
Ben, je vais voir un coin dans Paris. Parce que j'ai des amis qui ont des chambres où je connais, que je peux passer des fois d'une semaine ou 15 jours dans une chambre au chaud.
William, vous avez quel âge ?
66 bientôt, à la fin de l'année là. Bon, je suis à la retraite maintenant, bon, je me débrouille pour acheter ce que je veux, puis...
Et vous avez combien de retraites ?
Ah ben, j'ai assez pour vivre assez, hein, pour l'instant.
Bon appétit. Elle est bien chaude.
Bon appétit, monsieur. Bonsoir, monsieur.
Et donc là, on est sur le parvis de l'église Saint-Eustache. Hein. C'est pas loin de la rue Montorgueil, de la rue...
Oui, exact. Des quartiers piétons.
Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites ?
Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ce soir, on a des invités.
Des invités, c'est qui ?
Ben, ce sont ces personnes qui viennent faire la queue ici dehors pour manger, ce qu'on va leur proposer. Et donc, pour les accueillir, on installe ces barrières de manière à ce qu'ils puissent... faire la queue tranquillement, puisqu'ils seront sans doute assez nombreux. On va canaliser la file d'attente. Et puis à 19h30 précise, on va ouvrir les portes, les grilles, puisqu'en fait, nous, on prépare le repas derrière les grilles.
À l'intérieur donc de l'église.
Et à 19h30, donc on ouvre... les grilles et on sert le repas que nous avons préparé, donc de la soupe, un repas chaud, poisson et riz ce soir. Une équipe fait la tournée des boulangeries, pâtisseries pour récupérer les invendus qu'on va distribuer aussi avec un café chaud.
Et c'est les boulangeries, pâtisseries d'où ?
Du coin, voilà, donc du quartier Montorgueil et puis de la rue Saint-Honoré, juste à côté d'ici.
Bonsoir, je m'appelle Max.
Bon voilà, on bouffe là, c'est tout.
Non, on fait les poubelles aussi. Le soir, quand il est à 6h, sur ces poubelles, il y a des produits qui sont périmés le lendemain. Mais c'est toujours bon, on peut le manger le soir. Nous, on aime bien faire les poubelles, on trouve de l'or des fois.
Et pourquoi vous pensez qu'à Montorgueil, vous ne pouvez pas les faire chez les commerçants ?
Les commerçants, ils donnent le plus mauvais, vous ne comprenez pas. Ils ne veulent pas nous voir, ils ne nous aiment pas. Nous, on n'en a rien à foutre, on ne les aime pas non plus.
Hein. De gens qui passent avant, on n'a pas le droit de tout récupérer, parce que bon, il n'y a plus rien tout ça, bon, on est obligé de venir ici. Pour certaines personnes,
Vous vous appelez comment?
Emilio.
Emilio. Quel effet ça fait?
Eh ben, quel effet que ça me fait, c'est, ça me fait un effet de... C'est néfaste, quoi. Parce qu'ils en ont marre de nous voir errer dans les rues, et voilà. Ça peut abîmer des gens.
Et pourquoi vous n'allez pas dans la rue Montorgueil?
C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots.
C'est un jeu de mots?
Oui.
Pourquoi vous dites c'est un jeu de mots?
Non, moi je connais.
Qu'est-ce qu'elle a la rue Montorgueil?
Pardon?
La rue Montorgueil.
Qu'est-ce qu'elle a la rue
Montorgueil? Les bobos, les bobos.
C'est la rue la plus formidable du monde.
Ouais. Vous avez une belle ambition.
Ben c'est les bobos.
Ouais, c'est des beaux. Des beaux.
Et moi j'ai
des
vu.
Bobos, des bobos.
Et vous croyez qu'on a le droit de dormir dans la rue là-bas ou?
Hein? Mais moi je vous conseille pas, ça caille hein, la nuit. Hein. Mais dans la rue Montorgueil, il y a plus de flics que de passants. Vous avez pas compris, les civils, ils sont tous là. C'est obligé qu'il y ait plus de flics que de personnes.
Pourquoi vous...
Parce que les gens, ils ont trop de pognon, ils ont peur, ils sont...
Ils n'ont pas envie de voir...
C'est qu'ils n'ont pas envie de...
De connaître les pauvres. Ah, c'est tout.
Ah, ils ne veulent pas les voir.
Il y a un rejet des personnes SDF, en fin de compte.
Ils n'ont pas envie de voir la réalité en face, quoi.
Ouais.
Bah, les gens me regardent différemment parce que je suis à côté, peut-être par rapport à eux, à côté de la plaque. Mais en fait...
La plaque, c'est lui qui la tient.
Ils connaissent pas ma vie, quoi. Donc ils peuvent me juger et puis dire, tu vois, il dort par terre, machin, ceci, cela.
Mais en fait,
c'est une merde. Mais alors qu'ils connaissent pas ma vie.
Vous êtes bénévole.
Voilà, donc moi je fais partie des bénévoles. On est une trentaine par soir. Il y a une équipe pour chaque soir de la semaine.
Et expliquez-moi, vos invités dînent dehors.
Voilà, nos invités, malgré le froid, vont manger ici sur le parvis. Puis ils sont comme nous dehors.
Et pourquoi le mot invité plutôt que son domicile ou sans abri?
Parce que c'est exactement le terme qui les caractérise pour nous, c'est-à-dire que ce sont des gens que nous attendons, qui sont nos invités. Certains sont SDF, mais pas tous. À la limite, nous n'avons pas à connaître l'histoire de chacun. C'est-à-dire quiconque vient ici peut trouver à manger, quelle que soit son histoire et sa situation. Et il me semble que on peut être utile ici. Les contacts sont parfois rudes parce que effectivement. On est dans le monde des gens de la rue, que parfois c'est très... Certains de nos invités ne nous donnent pas toute la reconnaissance qu'on attend. Donc ils sont vis-à-vis de nous, parfois assez méchants.
Et par contre, entre bénévoles, j'ai vu que c'était une grande famille.
Et c'est ça qui est sympathique aussi. Alors certains d'entre nous se connaissent, j'allais dire, en dehors de la soupe Saint-Eustache, en dehors de l'association. Pour d'autres, c'est le seul contact qu'on a le soir, pendant 3h30. On travaille ensemble.
Moi, d'habitude, mes invités, je les reçois à table, à la même table que moi.
Eh bien, nous les recevons chez eux, j'allais dire, c'est-à-dire dehors. Moi, personnellement, j'attache de l'importance à vivre pendant quelques heures la même situation que la plupart d'entre eux, c'est-à-dire vivre dans le froid, c'est-à-dire ce qu'ils vivent en permanence. Et je trouve qu'on a à cœur de vivre dans les mêmes conditions une toute petite partie de la journée.
Mais peut-être qu'eux, ils aimeraient inverser, vivre dans vos conditions une toute petite partie de la journée.
Oui, mais c'est pas le but de l'association.
Il y a des jeunes ici qui sont des bénévoles, qui ont une bonne conscience. Il fait deux heures de bénévolat par semaine pour les pauvres et tout. Les grands-parents qui sont plus amenés à aller à l'église tous les dimanches que leurs parents ou leurs petits-enfants. Ah, la photo, Saint-Eustache, le petit-fils qui est là avec le sel, le poivre, qui sert la soupe. Ça fait un peu icône, vous voyez, c'est une icône. Peut-être que les gens se posent des questions aussi, parce que ça peut leur arriver un jour, hein, ça peut arriver. Hein. Comme eu un sondage où 77% des gens se posent des questions si un jour ils pourraient se retrouver dans la rue. Hein, c'est quoi, j'ai lu ça où dans l'IB, je crois. Non ?
Vous avez été où ?
Dans le quartier. J'ai pas voulu.
Par rue Montorgueil ?
Ben, juste à côté. Non, j'ai vu par rue Montorgueil, j'ai vu juste à côté. Mais ils se voilent la face. Hein, c'est pas,
Ils se voilent la face ?
Ben, non, j'estime que le potentiel des gens qui habitent le quartier, rue Montorgueil, bonne situation et tout, ce qu'on appelle les bobos. Voilà. En l'occurrence, la jeunesse caviar de la génération Mitterrand. Quoi. Ils ont un voile carrément par rapport à la misère. Quoi. Et je m'en suis aperçu depuis des années, quand tous les mois de novembre, dans les grandes Monoprix, Super U, Franprix, ils donnent rien. Que dalle, que dalle. C'est complètement différent. Quoi.
Elle est gentille, cette petite Pascale, hein. Elle est mignonne, elle a des jolies dents, et les gars, ils ont bien vu qu'elle avait des jolies dents, mais elle comprend rien du tout. Elle comprend pas du tout que l'important, le non-dit, alors bien sûr, c'est pas facile quand on est avec un micro d'enregistrer du non-dit. Mais le non-dit, il est le suivant, ne pas remettre en cause l'ordre existant. Voilà, il y a un ordre social, qui est que il y a les riches d'un côté et les pauvres de l'autre. Il y a d'un côté les onctueux, et puis d'un autre côté les cléreux. Et qu'est-ce qu'il faut ? Il faut les tenir à distance, ces cléreux. Il ne faudrait pas qu'ils finissent par se révolter. On a eu des révoltes de gueux. Et oui, l'histoire est pleine de révoltes de gueux. Il ne faudrait surtout pas. Ce sont des populations dangereuses. Donc, il faut les mettre à distance en leur faisant la charité. C'est formidable, la charité. Vous avez tout. Et en plus, vous avez une image de quelqu'un de bon, avec de la bonne conscience, qui peut bouffer sa dinde au marron. C'est encore plus agréable, non ? Voilà, c'est un ordre très ancien. Il faut surtout le préserver et préserver l'image. La rue Montorgueil, c'est une image. Les commerçants de la rue Montorgueil vendent des images et on vient là acheter des images et il ne faut pas glavioter sur une aussi belle image.
On doit partir à quelle heure faire la collecte ?
C'est-à-dire qu'en principe, on a rendez-vous dans une boulangerie tout en haut de la rue Montorgueil à 19h.
Alors vous, c'est Jacqueline ?
Moi, c'est Jacqueline. Ouais.
Et vous ?
Moi, c'est Marie.
Marie et Jacqueline. Alors Jacqueline, expliquez-moi ce qu'on va faire exactement là.
Tous les pains qui ne sont pas vendus, on les récupère.
Aux boulangeries de Montorgueil.
Voilà, de Montorgueil. On fait tout ça, il y en a qui vont à Saint-Honoré, nous on va à Montorgueil. On fait combien de boulangeries ? Tu fais combien de boulangeries à peu près ?
Il y en a 13, donc, en tout. 13 en tout et 8 pour le quartier Montorgueil.
Je suis avec vous, oui.
Et c'est donc, vrai Dominique, vous venez avec nous.
Voilà. On sert la soupe, on va aux boulangeries, ou on fait la vaisselle, ou voilà.
C'est extra.
Ouais, c'est bien.
Un nouveau qui est arrivé. Ça fait combien de temps, vous ?
Nous, on attaque notre 6e année.
Oui. Avec Marie, c'est avec ensemble. Marie.
Nous sommes arrivés ensemble.
Et qu'est-ce qui vous plaît bien, justement ?
De retrouver, de partager un petit peu le temps avec les autres.
On a des conversations très intéressantes avec eux. Hein. Il y a des gens très cultivés. C'est incroyable, et qui basculent très très vite.
Et ça me fait du bien, moi, de le faire, d'aider les gens. On ne pense pas seulement qu'à soi, avec ses petits problèmes chez soi.
Et moi, ce qui m'a vraiment touchée ici, c'est le respect qu'on nous a appris à avoir avec les gens de la rue. Ça, c'est formidable. On dit monsieur, madame, c'est formidable, ça.
Ben, je ne sais pas si on appelle ça la charité, mais quand même, avec dans le monde qu'on vit actuellement, je pense que...
C'est presque un peu égoïste, ce qu'on fait, vous savez. C'est parce qu'on reçoit beaucoup. Vraiment ? Ouais, ouais. Je sais que le vendredi, c'est sacré. Je refuse toutes les invitations et voilà, j'aime venir là.
Et si je viens pas, je me sens un petit peu culpabilisée. Oui, si vous,
bonjour, bien et toi ?
Allons, soyez pas sottes. Ce n'est tout de même pas de notre faute. Si le malheur des autres fait le bonheur de ceux auxquels il rapporte. Et puis ma chère, vivre riche et bien heureux, c'est peut-être déjà bien, c'est certain. Mais sans un parterre de boue gré de malheureux. Oh, ça n'aurait goût à rien. Oh, sans vous les tristes bougres, sans vous les humbles gens, sans vous les malheureux, les malchanceux, les mal lotis, vraiment que serions-nous, nous les bien portants, les gagnants du loto, nous les élus, nous les vernis. Sans vous, on ne pourrait pas faire preuve de pitié, pas faire œuvre de charité, et pas faire passer nos repas. Quand on vous donne un sou, vous ne savez pas comme c'est doux. Tout chaud à l'intérieur, tout sucre, on sent tout de suite meilleur. Regardez-moi bien filer une pièce, ça se vaut rien. Oui, messieurs, moi j'ai les moyens. Faut que je m'informe, vu tout ce que je donne au clodo. C'est peut-être déductible des impôts.
Vous voyez pas qu'on peut donner quelque chose à ce monsieur? Non. Mais il est dans la rue.
Vous voulez quelque chose?
Vous
voulez quoi, un gâteau ou du pain?
Merci, c'est cool. Je suis un orphelin et j'ai le cœur.
On va porter hein, les affaires. Hein.
Voilà. D'accord, je vous laisse porter. Alexandre, à côté, il y a la soupe.
Oui,
mais pourquoi vous y allez pas?
J'étais violé quand j'étais gosse. Et l'homme me fait peur. Rien que le contact de l'homme, ça me fait peur.
La rue Montorgueil, Je vois pas beaucoup de personnes qui sont dans la rue, qui
c'est à cause de la police. Il y a les commerçants, pas tous, heureusement, mais il y a des commerçants qui appellent la police et qui nous virent.
Vous êtes fait virer de la rue Montorgueil?
Oui. Déjà, à l'hôtel du Louvre où je dormais, ils m'ont fait virer parce que c'est un hôtel de riches. Parce que ça leur fait une sale image. Mais on est tous virés par la police. Nous, les gens de la rue. Ils ne regardent pas les nationalités, ils ne regardent rien. Si tu veux, pour la société humaine qui travaille, quand tu es dehors, tu n'es plus rien, tu es différent. Ils te trouvent différent. Pour eux, tu n'es plus rien. Tu n'es qu'une mère, tu n'es plus un humain. Ils te regardent avec curiosité, ils sortent leur côté raciste sur nous. Ils nous insultent de fainéant d'aller bosser, mais ils ne savent même pas pourquoi on est dehors. Le premier pas que l'être humain dans ce monde a à faire vers la paix dans ce monde pour les gosses et les jeunes, justement, c'est le tutoiement. L'État a mis le vouvoiement parce qu'ils savent que ça divise les gens du peuple. Eh oui.
Toi, pourquoi t'es dehors, Alexandre?
Parce que j'ai perdu ma femme de 25 ans il y a 12 ans en arrière au début de ma galère, le jour de la lune de miel. Après la Légion étrangère et l'assistance publique. Ben, si tu veux, après la Légion, j'ai épousé une femme et j'ai pris sa fille en mon nom. On a été à Las Vegas parce que moi je voulais y aller, parce que je voulais lui offrir le casino du Las Vegas, parce que pour elle, pour moi c'était important qu'elle aille là-bas. Et pour ma fille, parce que c'était plus près pour aller à Disneyland, tu vois. On est arrivé, ma femme est sortie de l'aéroport en courant, elle a arrêté un taxi, et puis il y a un camion de routier qui lui a passé dessus, quoi. J'ai surmonté tout ça. Il n'y a qu'une chose que j'arrive pas et que j'essaie là, parce que je sais que j'ai une volonté d'en faire. Il n'y a qu'une chose que je suis en train d'essayer, c'est la dernière petite chose qui me reste pour pouvoir surmonter encore. Pour oublier tout, je vais prouver qu'on peut oublier. Vivre avec, mais on peut aussi oublier. Ça, je sais qu'on peut le faire. Tout ce qui est négatif, on peut l'oublier. Et bien là, je suis en train d'essayer de me rapprocher de l'homme, malgré qu'il me fait peur, tu vois, de prendre contact. Petit à petit.
Gérer les pauvres, c'est la question qui se pose aujourd'hui. Et on s'organise de mieux en mieux pour tenir les pauvres et les miséreux, les misérables à distance. Mais certains ne sont peut-être pas aussi abrutis que ça.
Dans tous les journaux, ils parlent la raison d'être des gens qui sont carrément au bas de l'échelle, dans la rue. Ils font des campagnes comme ce qu'ils ont fait sur le canal Saint-Martin, là, de s'entendre avec des gens qui ont un logement, qui vont essayer de dormir une nuit pour savoir comment les gens dans la rue peuvent supporter ça, alors que bon, c'est même les artistes qui vont aller dormir, c'est complètement nul, quoi. C'est tout le monde s'en sert, hein. Tout parti politique confondu, hein. Pour les élections, hein. Et s'il faut en arriver à ça pour s'en servir que, comme un, pas un joker, mais comme un pion sur un échiquier pour avoir des points aux élections, c'est dégueulasse. Quoi. Emmanueli, que je peux pas encadrer.
SAMU social.
SAMU social. Et moi, je peux vous dire que 80% des gens, quand ils voient le SAMU social, ils se planquent derrière un mur pour pas aller à Montrouge ou à... Parce que c'est complètement lamentable, c'est à tout niveau, je veux dire, niveau psychologie, encadrement, hygiène...
Et les autres associations qui servent à manger, etc.
Là, vous basez sur l'alimentaire, là. Hein, parce que pour les gens de la précarité, c'est le logement. Hein. Sinon, à Paris, on peut manger, on peut aller dans les vestiaires pour avoir des vêtements, des chaussures. Les douches sont gratuites, ce qui n'est pas donné dans beaucoup de pays. La base, le basique, c'est le logement. Hein, priorité, c'est le logement. Hein. À la rue, quand vous dormez dans la salle de couchage, sur un carton ou dans une tente, vous ne pouvez pas aller au boulot le lendemain matin. Hein. Un jour, deux jours, trois jours, et après vous cassez les reins.
Vous voulez qu'on aille où? Vous voulez pas qu'on rentre à l'intérieur? Ou pas? Non, ça vous... Non?
Vous voulez un café?
Merci. Bah, il fait meilleur quand même, non?
Ouais. J'ai passé un coup de fil le matin, j'ai pas besoin d'aller voir ma psy, je recherche ma psy le matin, j'ai pas besoin d'aller la voir.
Je vous avais fait faire une belle économie, j'espère qu'elle est gratuite votre psy.
Quoi. Ah mais quand même, c'est une psy sociale, elle est aveugle. Pendant deux heures quand je lui parle, bah, je regarde son chien, Arthur. C'est un labrador, il me regarde, il me connaît. Je regarde le chien quand je lui parle. Elle me tient la main de temps en temps parce que bon, il faut la toucher quand même. Hein. C'est une très bonne psy. Ça vous fait rire.
Merci, mon ami. 5, 9, euros de solidarité.
Merci à tous, c'était un reportage de Pascal Pascariello. Merci à Jérôme, Thierry, Sam, Emilio, Jean-Jacques Gouret, Max, William et aux commerçants de la rue Montorgueil et aux bénévoles de la soupe Saint-Eustache. À lire de Patrick Declerc, Le sang nouveau est arrivé, l'horreur SDF aux éditions Gallimard, un livre qui a quelques années mais qui est toujours d'actualité. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter. À la rubrique émission là-bas, si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission, ainsi que sur là-bas.org, là-bas.org, le site non officiel de là-bas, si j'y suis, et la technique aujourd'hui, Farid Chibani et Julien Chabassus, et Yann Chouquet et Koyen Nguyen qui ont réalisé cette émission, assistés de Charlotte Perry, et Christophe Imbert, le chef du répondeur, attend vos messages au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37.